Les livres. Sélection de Radio Silence. Aujourd'hui, mercredi 7 du mois d'août de l'an de grâce 2013, ici Périnée, Arctos Omegas. À tous, présents et à venir, qui voulez bien nous écouter, salut. Comme il a été dit dans une chronique comme celle-ci, il y a une dizaine d'années, le temps de la canicule devrait favoriser, entre deux chopes de bière bien fraîches, la méditation sur des sujets dont la gravité requiert une réflexion et d'abord une connaissance approfondie. Ainsi, présentement, cette question cruciale, si souvent évoquée sur une radio amie, cette question de l'euro, ou plus exactement, de la nécessité de sortir de l'euro. Mais, à la vérité, ce qu'il faudrait d'abord, c'est avoir une connaissance suffisamment approfondie et exacte, en tout cas exacte, du problème de la monnaie en elle-même, son essence même, son histoire, ses avatars. Or, l'on taxe à l'habitude les Français de ne s'intéresser que très peu aux choses de l'économie en général et de la monnaie en particulier. Et effectivement, la majorité de nos concitoyens se révèle franchement ignare en ces matières, et particulièrement dans le domaine monétaire, ce qui est grandement déplorable, ces questions étant déterminantes pour leurs conditions de vie, les fameuses conditions de vie quotidienne. Il est ainsi paradoxal que la notion même de monnaie soit pour le français moyen quelque chose d'entouré de flou, de mystère, presque de magie. L'on en parle avant tout comme élément de règlement d'une dépense pour lequel il faut fournir la monnaie, c'est-à-dire la pointe. De façon, pourrait-on dire, providentielle, est paru récemment un travail de nature à faire sortir les Français d'abord, mais les autres aussi, de leur crasse ignardise. Il s'agit de La monnaie, histoire d'une imposture par Philippe Simoneau et Charles Lelien, authentiques économistes indépendants, Perrin éditeur. En manière d'avant-propos, pour en quelque sorte accrocher et situer le sujet, et dans leur souci, citation, d'encourager le lecteur à sortir de l'abrutissement, sic, auquel sont condamnés nos concitoyens, Simoneau et Lelien font d'abord justice de l'allégation mensongère et imposer, autre citation, que la crise actuelle résulte d'un excès de marché, de liberté du marché, auquel le retour en force de l'État, c'est-à-dire de la réglementation, doit porter remède par accroissement de ses interventions. Fin de citation. Avec une parfaite rigueur, ils, les auteurs, établissent que c'est là une escroquerie intellectuelle de haut vol. L'intervention étatique a au contraire créé une crise dans la crise, a rendu la crise quasi permanente. La preuve indéniable, un exemple parmi d'autres, l'obligation légale faite aux banques états-uniennes d'accorder des prêts privilégiés, dits subprimes, aux classes défavorisées, constituant sans doute l'électorat de M. Obama. M. Obama est le président actuel des États-Unis, mais dont l'insolvabilité a amené les catastrophes en chaîne que l'on sait, dans laquelle nous sommes. Il s'agit là, en fait, d'une imposture caractérisée, d'une imposture majeure, d'une coloration presque apocalyptique. Mais, s'agissant de monnaie, l'imposture apparaît en être quasiment congénitale. Un des propos du livre étant justement de montrer que peu après l'apparition des premières monnaies, il y a des millénaires, les pouvoirs publics se sont efforcés de s'en réserver la maîtrise, devenue peu à peu absolue, avec droit exclusif de l'émettre, accaparement du métal précieux, argent et avant tout or, ce dernier métal conférant de manière universelle aux espèces leur valeur effective. C'est l'histoire de cette conquête étatique de la monnaie qui constitue la trame du livre, la conquête étatique de la monnaie. À très juste titre, les auteurs posent la question primordiale, mais qu'est-ce que la monnaie? Et d'abord, pourquoi cette appellation? Ce nom donné à leur livre par Simoneau et Lelièvre. Pourquoi cette appellation? Dans le langage courant, l'uomo qualunque, l'homme de la rue, pour désigner les sommes dont on dispose par le vocable argent et non pas monnaie. Ainsi, de Zola, à l'esprit de qui n'est pas venue l'idée d'intituler La Monnaie son célèbre roman, mais bien L'Argent. Les auteurs voient à cela deux raisons. D'abord, avec le recul de civilisation dû à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, la monnaie avait presque disparu, et notamment la monnaie d'or, qui s'était exilée, réfugiée d'abord dans l'Empire romain d'Orient, Byzance, et aussi dans le califat de Bagdad d'abord, puis de Damas d'abord, puis Bagdad. Avec l'ordre carolingien, reprennent les échanges commerciaux, mais avec de la monnaie exclusivement d'argent, ce qui a marqué l'inconscient collectif, et non pas d'or. L'expression argent est aussi beaucoup plus concrète, plus réelle, ainsi que le mot monnaie, beaucoup plus abstrait. Ceci dit, la monnaie est ainsi définie par Littré. Une pièce de métal servant aux échanges, frappée par une autorité souveraine et marquée au coin de cette autorité dont le poids et le titre sont ainsi certifiés. En d'autres termes, lingot dont le poids et le titre sont certifiés, le mot coin et le poinçon dont on marque la pièce, d'où l'expression fleur de coin pour une pièce restée à l'état de neuf. Définition exacte, hormis l'exigence de frappe par une autorité souveraine. La monnaie est en effet inventée, il y a des millénaires, par des négociants de Mésopotamie pour rendre possibles les échanges. La Genèse même fait état d'une monnaie d'argent, le sicle, existant depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, d'où vient Abraham. Le sicle existant depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ, la monnaie se présente donc pour ce qu'elle est, une marchandise ayant une existence réelle et une existence et une valeur réelle, et vocation à servir d'intermédiaire pour les échanges des différents biens entre eux. Elle pouvait, elle aurait dû rester parfaitement une affaire privée. Mais le fait d'émettre porte en soi le risque de conférer à son détenteur privé un pouvoir concurrent du légitime pouvoir régalien. Ainsi, assez rapidement, l'État est-il intervenu pour avant tout certifier le poids en métal précieux et le titre de la monnaie. Puis, il s'est réservé le monopole de la frappe et de l'émission de la monnaie, en imposant le cours légal, c'est-à-dire l'obligation de l'accepter en paiement. À condition que la monnaie garde sa valeur réelle, tel le solidus, c'est le nom d'une monnaie, le solidus d'or de Constantin, dont le poids et le titre ont duré un millénaire. Ce statut de la monnaie apparaît parfaitement légitime et bénéfique. On rappelle que le mot monnaie, au point de vue étymologique, vient de moneta, qui est un des surnoms de Junon. Autrement dit, la monnaie est hantée et greffée sur une notion de confiance. C'est la confiance qu'elle doit colporter et surtout la bona fides, c'est-à-dire la bonne foi, si chère au cœur des Romains et dans l'esprit des Romains. La monnaie revêt ainsi une coloration mystique de colporter la confiance entre les hommes. Toutes les traditions ésotériques en font foi. La perversion apparaît quand les pouvoirs publics vont manipuler la monnaie pour se procurer des ressources financières. C'est la très longue histoire de cette imposture que décrit le livre. La première manipulation connue est celle de Crésus, richissime souverain, qui mit en circulation des pièces à teneur diminué tout en à teneur d'or diminué tout en gardant la même valeur faciale. Elle sera suivie de nombreuses autres impostures du même ordre. Avant que d'en traiter, les auteurs évoquent le théoricien de la bonne monnaie pour montrer ce qu'elle devrait être. Totalement théoricien totalement ignoré de nos jours. Il s'agit de Nicolas Oresme, évêque de grande culture et de grande sainteté, la chose existait à l'époque, savant notamment dans la mathématique, confesseur du roi Charles V, Charles V le Sage, qui écrit vers 1355, milieu du XIVe siècle, le traité sur l'origine, la nature, le droit et les mutations des monnaies. Il y consacre les principes ci-dessus énoncés pour une bonne monnaie, le souverain ayant le devoir d'en garantir l'authenticité, d'en conjurer l'altération. C'est ainsi qu'à l'époque, Oresme et les autres appelaient la manipulation, le trucage des monnaies, la baisse de valeur des monnaies en or. Ceci, sans arriver à édicter, Oresme n'arrive pas à édicter le moyen pour empêcher le souverain lui-même d'user de ce procédé de manipuler les monnaies, hormis sa condamnation morale comme péché grave. Il s'agit du souverain très chrétien. Et étant précisé que le meilleur garant de la valeur de la monnaie, c'est, comme il s'est révélé par la suite, sa convertibilité, la convertibilité des billets et autres effets de papier en or à tout moment. Avant d'aborder l'Ancien Régime et son pseudo-absolutisme, le livre rappelle la naissance d'organismes spécialisés, habiles à faciliter les transactions. Ce sont les banques. Elles se développent particulièrement en Italie du Nord, mettant pratiquement au point l'essentiel de la technique bancaire actuelle. Les dépôts à vue, le billet à ordre, véritable billet de banque, évitant les transferts d'or en effectif coûteux et périlleux, le virement de compte à compte, etc., sans oublier la comptabilité en partie double et même quadruple, quadruple déjà inventé par les banquiers florentins. Partout, en Italie bien sûr, tels les Pazzi, les Peruzzi, les Albizzi, les Médicis, mais aussi en Allemagne, les Fugger, elles deviennent de redoutables puissances financières, traitant presque d'égal à égal avec les puissances politiques, les empereurs et les rois. Prenons souvent la direction des cités-États en Italie, des cités-États en Italie. Là est le danger, leur collusion avec la puissance étatique est lourdement responsable de la situation catastrophique présente. Ce qui a amené les pouvoirs aux manipulations monétaires, c'est le besoin récurrent d'argent. Des États modernes, tenus de soutenir une grande querelle, comme il est dit dans Faust, soutenir une grande querelle, une grande politique, d'entretenir des armées permanentes coûteuses. Pour les financer, il faut de l'argent. Il y avait la fiscalité, mais en fait, en France en particulier, elle est très mal organisée et peu rentable. Les emprunts, qui sont toujours très dangereux, l'altération de la monnaie, enfin, le plus commode et le plus juteux. Les monarchies d'Ancien Régime ont eu certes recours à ces mauvaises pratiques, mais en fait de façon limitée, sans commune mesure avec maintenant. À partir des XVIIe et XVIIIe siècles, certains États, à commencer par l'Angleterre, s'avisent du pouvoir des banques de pouvoir créer de la monnaie de façon quasi illimitée, c'est-à-dire de procurer à l'État des ressources indéfinies. Invoquant un aspect faussement régalien, du droit de battre monnaie, ces États vont se réserver le monopole de l'émission. À cet effet, l'Angleterre crée la première banque centrale, qui sera réputée à juste titre mère de toutes les autres banques centrales, pourvue du monopole de l'émission de monnaie et qui, de la façon la plus efficace, assurera toujours à la couronne les ressources de sa politique. La Banque de France suivra quelques années après, plus tard, par décision du Premier Consul. Si l'on peut parler d'absolutisme monétaire, ce n'est pas sous les rois, mais bien dans la période contemporaine, avec l'apparition de ces bandes. Ces banques étatiques, ces banques centrales d'émission étatique qui vont conférer au pouvoir public un pouvoir de création monétaire devenu peu à peu illimité. Qu'il s'agisse de la Banque d'Angleterre ou de la Banque de France, ce sont les besoins de la guerre et de la politique qui sont à l'origine de ces banques. En 1913, en décembre 1913, aux États-Unis est créée la Banque centrale sous nom de Système fédéral de réserve. Réserve le Fed. Comme les banques d'Angleterre et de France, le Fed procède de la volonté de puissance publique de s'octroyer une capacité de financement potentiellement illimitée, ceci en contrepartie d'avantages définitifs concédés à la haute banque privée constituée en cartel et pourvue de privilèges exorbitants. Au début, ce système donne satisfaction. Pourquoi? La convertibilité des billets en métal précieux maintenus freine efficacement l'émission inflationniste de papier-monnaie. S'instaure une stabilité monétaire et une expansion économique exceptionnelle. Plus d'un siècle. C'est la guerre de 1914, en son sinistre mois d'août, qui, en raison des énormes dépenses militaires, va amener la fin de la convertibilité en or, ce dont le monde ne s'est jamais remis. Sous l'influence de mauvais génies économistes et avant tout du sinistre Keynes, s'ouvre alors une véritable chasse à l'or, de condamnation de l'or, qualifié de relique barbare, vieux fétiche, etc. Seul après la guerre, les États-Unis, en janvier 1934, Roosevelt a quasiment interdit aux particuliers de détenir de l'or qu'ils doivent apporter au Trésor américain pour un prix de misère, sous peine de poursuites pénales. Le vertueux Roosevelt a agi ainsi. Seuls les États-Unis ont conservé, de façon d'ailleurs limitée, la convertibilité en or, avec l'engagement qu'il en serait ainsi à perpétuité. Mais à partir de 1944, les vertueux États-Unis, avec les accords de Bretton Woods, le roi dollar remplace pratiquement l'or comme réserve des diverses banques centrales, avec l'engagement formel à ce que le Fed remboursera toujours en or les dollars papier présentés par les États. Faculté dont le général de Gaulle saura user. Mais le 15 août 1971, jour noir pour l'humanité, une manière d'explosion de bombe atomique en matière monétaire, reniant tous ses engagements, Nixon décrète l'inconvertibilité du dollar, les États-Unis se comportant ainsi en véritable État voyou, c'est le cas de le dire. Les milliards détenus en réserve, par exemple par le Japon, ne sont plus que des bouts de papier. Ne reste leur détenteur qu'à soutenir le cours du billet en continuant à en acquérir s'ils ne veulent pas tout perdre. Comme le dit cyniquement le secrétaire adjoint au Trésor Connally, le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. De ce jour s'étend sans partage sur le monde l'empire yankee, économique, politique, militaire, surtout idéologique. Et le dernier lien avec l'or étant rompu, il n'y a plus aucun frein à une émission exponentielle de papier-monnaie, de monnaie virtuelle, de fausse monnaie, de monnaie informatique, de fausse monnaie donc, sur fond de crise économique dramatique. Constatation propre à justifier le terrible anathème de Monterland, j'accuse les États-Unis d'être en état constant de crime contre l'humanité. Dans une conclusion aux vues aussi pertinente qu'originale, surprenante, les auteurs relèvent que dans ce siècle de mort de la convertibilité et de chasse à l'or, il n'y a plus de place pour une transcendance s'imposant aux États, c'est-à-dire d'une obligation pour la loi positive de respecter les données fondamentales transcendantes de la loi non écrite, la loi d'Antigone. Ils observent une congruence entre eux, c'est-à-dire une convergence, il aime bien les mots savants, entre l'étalon or et l'étalon divin. Laisser une nation abandonner l'étalon or et elle reléguera bientôt Dieu à la seconde place, comme dit le grand économiste russe Balton. L'abandon de l'étalon or coïnciderait donc avec l'étatisme, l'athéisme et le déclin de la société civile. Contre la déréalisation actuelle, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus aucune réalité à la monnaie actuelle, l'important est donc de rétablir son ancrage dans le réel, ce qu'apporterait tout simplement le rétablissement de l'étalon or, qui rendrait à la monnaie son caractère sacral et initial sous l'égide de junum moneta et de la bonne foi, comme nous l'avons cité in limine. Un ouvrage passionnant, qui se lit comme un roman, mieux même que beaucoup de romans modernes, aurait dit le grand Napoléon. Il apporte de façon accessible à tout intellect normal, même M. Hollande, les connaissances monétaires de base indispensables et décrit parfaitement l'imposture en cause. Un livre donc à lire, relire, faire lire et offrir, car vraiment cet ouvrage vaut son pesant d'or. Merci de nous avoir écoutés. À une autre fois, que la Très Sainte Vierge, dont c'est bientôt la fête du couronnement, comme notre reine, véritable fête nationale de la France, en ce domaine comme dans les autres, daigne faire revenir un ordre monétaire en harmonie avec le réel, avec l'ordre divin. Et hec ad majorem Dei gloriam.